La constitution Lumen Gentium sur l'Église, le chapitre 8, est consacré à la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, dans le mystère du Christ et de l'Église. La figure de Marie, dans la foi catholique, est ainsi tout entière rapportée à ce double mystère, celui du Christ et celui de l'Église, double mystère qui est celui de la rédemption. Marie, Mère de Dieu, nous est présentée comme Mère de l'Église et comme Mère des chrétiens. C'est donc à partir de l'affirmation de la maternité divine que je voudrais ressaisir ce soir toute la dogmatique catholique sur la Vierge Marie. C'est en effet par sa maternité que Marie accomplit la mission qu'il a définie théologiquement. En étant Mère du Christ, à Noël, Marie se révèle être Mère de Dieu et Mère de l'Église. C'est ce qu'avait souligné le bienheureux Paul VI un an plus tôt dans son discours du 21 novembre 1964, qui clôturait la troisième session du Concile. Discours qui s'achevait par une proclamation solennelle que je cite. C'est donc à la gloire de la Bienheureuse Vierge et à notre réconfort que nous proclamons Marie très sainte, Mère de l'Église, c'est-à-dire de tout le peuple de Dieu, aussi bien des fidèles que des pasteurs, qui l'appellent Mère très aimante. Et nous voulons que, dorénavant, avec un tel titre très doux, la Vierge soit encore plus honorée et invoquée par tout le peuple chrétien. Le pape explicitait ainsi la raison de ce nouveau titre solennel, et je le cite à nouveau. Comme en fait la maternité divine est le fondement de la relation spéciale avec le Christ et de sa présence dans l'économie du salut opérée par le Christ Jésus, cette maternité constitue le fondement principal des rapports entre Marie et l'Église, car elle est mère de celui qui, depuis le premier instant de l'incarnation dans son sein virginal, s'est uni comme chef son corps mystique qui est l'Église. Marie, donc, en tant que mère du Christ, est mère aussi de tous les pasteurs et fidèles, c'est-à-dire mère de l'Église. Relisons donc à cette lumière ce que l'Église enseigne de celle qui lui est donnée pour mère. Parce qu'elle est mère de Dieu, ce sera ma première partie, Marie est aussi mère de l'Église et donc des chrétiens que nous sommes, deuxième partie. Marie, mère de Dieu. La figure de la Bienheureuse Vierge Marie apparaît avec l'Annonciation. L'archange lui communique le désir qu'a Dieu d'en faire la mère du Messie. Par son consentement, elle conçoit en son sein le Fils de Dieu par l'action du Saint-Esprit et sans le concours de celui à qui elle était promise, Joseph, un homme juste, nous dit l'Évangile. L'Esprit-Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Saint Luc, chapitre 1, verset 35. C'est le mystère de la conception virginale de Jésus dont le Père véritable est celui du ciel. L'Évangile le rappellera lors de l'épisode du recouvrement de Jésus au Temple. « Ne saviez-vous pas que je dois être dans la maison de mon Père, aux affaires de mon Père ?» Chapitre 2 de Saint Luc au verset 49. Le Père dont il parle, c'est évidemment son Père du ciel, Dieu lui-même. Le premier mystère de Marie, c'est donc celui de sa maternité divine. Elle est vraiment mère de Dieu parce qu'elle est la mère de Jésus et que Jésus est Dieu. C'est simple, mais pourtant cela n'a pas toujours été très bien compris. Des pasteurs de l'Église primitive se sont offusqués du titre de Mère de Dieu. Et d'une certaine manière, on les comprend. Comment peut-on dire que Dieu, l'absolu, le transcendant, est une mère et qui plus est une mère humaine? Autrement dit, qu'une créature puisse être la mère du Créateur. Alors essayons de comprendre. Et pour cela, revenons sur le développement du dogme. L'Église, dans ses premiers conciles, a affirmé la divinité du Christ, au premier concile de Nicée en 325, puis au premier concile de Constantinople en 381, elle affirme que Jésus est d'essence divine. Elle reconnaîtra plus tard qu'il n'y a pas deux personnes en lui, l'une divine et l'autre humaine, contre les Nestoriens, ni une seule personne divine qui ne serait revêtue que d'une apparence d'humanité, contre les monophysites, mais bien une seule hypostase, une seule personne sous-jacente à une individualité humaine complète, c'est-à-dire douée d'âme et de corps, l'âme, autrement dit, d'intelligence et de volonté. Les Nestoriens, en effet, juxtaposaient en Jésus une personne divine, le Verbe, et une personne humaine, le Christ. Alors pour eux, dire que Marie est la mère de Dieu, c'était impossible. Qu'elle soit mère du Christ, oui, mère de Dieu, non. Tandis que les monophysites absorbaient l'humain dans le divin, comme disait-il, la goutte d'eau dans l'océan, faisant de l'humanité du Christ une sorte d'apparence, comme le corps que les anges prennent pour apparaître aux hommes. Et là, dire de Marie qu'elle était mère du Christ, c'était même pratiquement impossible aussi. En reconnaissant que Marie est bien la mère de cette individualité humaine qui ne subsiste que de la subsistance de la personne divine qui la sous-tend, l'Église affirme donc qu'elle est aussi mère du Verbe incarné, du Dieu fait homme. C'est ce que proclama très logiquement le Concile d'Éphèse en 431 et que précisa peu après le grand concile christologique de Chalcédoine en 451. Marie n'est mère de Dieu qu'en tant qu'elle est mère du Christ, c'est-à-dire mère du Fils de Dieu venu dans la chair. Elle n'est évidemment pas mère de la divinité, et si le Verbe ne s'était pas incarné, il n'y aurait jamais eu de mère de Dieu. Une telle mission supposait, par raison de convenance, une sainteté à la mesure de celle du Saint par excellence, le Christ, lui que personne n'a pu convaincre de péché, comme le dit saint Jean, chapitre 8, verset 46. C'est le mystère de l'Immaculée Conception, connexe donc à celui de la maternité divine. De toute éternité et de façon toute gratuite, Dieu a choisi Marie pour être la mère de son Fils. Pour accomplir cette mission, elle a été immaculée dès sa conception. Cela signifie que par la grâce de Dieu et en vertu des mérites de Jésus-Christ, Marie a été préservée du péché originel dès sa conception. C'est ce qu'affirme l'abrégé du catéchisme publié par Benoît XVI en 2005 au numéro 96. Il met en lien l'Immaculée Conception avec la maternité divine de Marie. Ainsi est-il rendu justice à l'affirmation de saint Luc, la déclarant comblée de grâce au moment de l'Annonciation. Chapitre 1er, verset 28. En grec, c'est un parfait qui signifie une action achevée. Marie ne grandit pas en grâce, elle est achevée en grâce. Elle en est remplie, pleine. Il est intéressant de noter que Marie, en étant ainsi préservée, n'échappe cependant pas à la loi universelle de la rédemption, raison pour laquelle, par exemple, un certain nombre de théologiens, et non des moindres, saint Bernard, saint Thomas d'Aquin, s'opposaient à l'Immaculée Conception, en disant qu'elle aurait été préservée du péché originel, sans qu'elle ait été sauvée par son Fils. Autrement dit, qu'il y aurait eu une lacune dans l'œuvre universelle de rédemption du Christ. Eh bien, comme le dira la définition dogmatique qui avait été préparée par les éclaircissements des franciscains, c'est bien par les mérites de son Fils, quoique pas encore lui-même conçu en elle, qu'elle est sauvée. Alors vous allez me dire, mais comment cela est-il possible? Eh bien, à cause de la réversibilité du temps de la rédemption. Cette réversibilité est possible parce que ce qui sous-tend l'humanité du Christ à venir, pas encore conçu, évidemment, au moment de la conception de sa mère selon la chair, c'est la personne divine qui, en étant éternelle, est, elle, contemporaine à tous les instants du temps. Un peu, vous voyez, comme le moyeu de la roue correspond à chaque point de la circonférence de la roue. Et on imagine à ce moment-là que cette circonférence de la roue, c'est l'histoire qui se déroule. Ce que cette personne divine accomplit dans son incarnation à un moment donné du temps, celui de la Passion, vaut pour la totalité des temps et donc aussi au moment de la conception de celle qui va devenir sa mère selon l'humanité. Jésus, conçu en un temps donné, parce qu'il est le Fils éternel de Dieu, et parce qu'il est éternel, donc contemporain à tous les instants du temps, eh bien, l'acte de rédemption qu'il accomplit à un moment donné du temps peut porter également ses effets dans les temps qui ont précédé. En vertu de son Immaculée Conception, dogme qui sera proclamé par le bienheureux Pie IX en 1854, après une longue enquête auprès des évêques et avec leur assentiment, songez qu'à l'époque l'infaillibilité pontificale n'est pas encore un dogme, Marie reste préservée de tout péché personnel, non sans mérite de sa part. Elle adhérera parfaitement à la volonté du Père, à l'instar de son Fils, dont elle est la plus parfaite image, la disciple, Saint Luc, chapitre 8, verset 21, et l'imitatrice, Saint Luc, chapitre 2, verset 35. Jésus ne fait-il pas l'éloge de Marie comme disciple lorsqu'il dit « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. » Et la prophétie de Siméon ne la désigne-t-elle pas comme imitatrice de son fils dans la Passion, lorsqu'il lui est dit « Toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que se révèlent les pensées intimes de bien des cœurs. » Marie est ainsi, à la fois à travers ses douleurs, les douleurs de son cœur, les sept douleurs de son cœur, elle est ainsi l'imitatrice de son propre fils. La singularité de la mission de Marie exigeait aussi, là encore par raison de convenance, qu'elle demeurât toute consacrée au Seigneur. C'est le sens de sa virginité perpétuelle, confessée dès l'origine par l'Église. La mention dans l'Évangile de frères et de sœurs du Seigneur, par exemple au chapitre 8 de Saint Luc, au verset 19, doit donc être comprise comme désignant des parents proches. Et la critique littéraire elle-même ne s'oppose pas à cette solution, voire y incline, comme par exemple lorsque nous entendons la parole de la croix confiant la mère aux disciples bien-aimés. Car si Jésus avait eu des frères et des sœurs, eh bien c'est à eux juridiquement et non aux disciples bien-aimés qu'il aurait dû confier sa mère. Marie nous est présentée dans l'Évangile comme accompagnant la vie publique de son fils, de son commencement à Cana, où son attention et sa charité le poussent à accomplir son premier miracle, chapitre 2 de Saint Jean, jusqu'à la croix et la mise au tombeau, où elle persévère dans l'espérance, entourée de seulement quelques disciples. C'est ce qu'a voulu illustrer Saint Jean-Paul II en ajoutant au rosaire les mystères lumineux qui tous renvoient à l'agir salvifique du Fils. Mentionnons-les, car ils ne sont pas encore très connus. Le baptême au Jourdain, les noces de Cana, la prédication sur la montagne, la transfiguration et l'institution de l'Eucharistie. Après la Passion, nous retrouvons Marie à l'orée du temps de l'Église, encore sous la plume de Saint Luc, cette fois dans les Actes des Apôtres, au moment où le Saint-Esprit fond sur les apôtres rassemblés en prière au Cénacle à la Pentecôte. Et j'aborde alors cette seconde partie, Marie, mère de l'Église. C'est que Marie a une relation particulière avec l'Église dont les disciples de la Pentecôte forment la première communauté. Elle qui a conçu le Fils unique au jour de l'Annonciation, conçoit d'une certaine manière l'Église au jour de la Pentecôte et toujours sous l'action de l'Esprit-Saint. Elle avait donné naissance à la tête du corps. Elle donne maintenant naissance aux membres de ce corps. Car le Christ est la tête de cette Église dont les baptisés sont les membres, nous dit saint Paul. De même que le premier Adam et la première Ève avaient précipité leur descendance par le péché originel dans une nature blessée et dans la séparation d'avec Dieu, de même, le nouvel ou le dernier Adam, selon l'expression de saint Paul, et la nouvelle Ève constituent les prémices de la nouvelle alliance, engendrant un peuple nouveau, racheté, réconcilié avec Dieu, dans l'attente de la restauration eschatologique à la fin des temps, réconciliation qui touchera aussi la nature et qui se traduira pour nous par la résurrection des corps. La Bienheureuse Vierge Marie est mère de l'Église dans l'ordre de la grâce parce qu'elle a donné naissance à Jésus, le Fils de Dieu, tête de son corps qui est l'Église. En mourant sur la croix, Jésus l'a donnée comme mère à son disciple par ces mots « Voici ta mère ». C'est ce qu'affirme encore l'abrégé du catéchisme de Benoît XVI au numéro 196. Cette maternité, consacrée, comme on l'a vu, par le bienheureux Paul VI au deuxième concile du Vatican, s'exerce depuis le ciel que Marie a gagné au jour de son Assomption, dogme proclamé par Pie XII en 1950 en vertu de son infaillibilité. Marie a gagné le ciel au jour de son Assomption et par une inlassable intercession en ces temps qui sont les derniers, eh bien, cette intercession s'accompagne d'apparitions où, comme les prophètes de jadis, elle exhorte à la fidèle observance de l'évangile de son Fils. Marie est ainsi la nouvelle Ève, la mère des vivants, une maternité fondée sur l'obéissance et non sur la désobéissance, comme celle de l'ancienne Ève. Le dogme de l'Assomption signifie que Marie, immaculée, n'a pas connu le hiatus douloureux qu'est pour nous la mort corporelle, entrée dans le monde par la jalousie du démon, comme le rappelle le livre de la Sagesse au chapitre 2, à cause du péché originel, précise saint Paul dans sa lettre aux Romains au chapitre 5e. Son transitus, son élévation au ciel en son corps et en son âme, a été le passage d'un bien vers un mieux. C'est pourquoi on désigne aussi le mystère de l'Assomption par l'image de la dormition. Marie, seule de toute l'humanité, en vertu du privilège de son immaculée conception, s'est endormie dans la mort pour aussitôt ressusciter. Ou bien, elle est passée directement de ce monde transitoire et voué à la corruption au monde nouveau, incorruptible, inaugurée par le corps ressuscité de son Fils et qu'elle a rejoint. Depuis, Marie veille sur tous les hommes dont le Père veut faire ses fils adoptifs dans le Christ, son Fils unique. À Marie convient le culte d'Hyperdulie, comme à la première de tous les saints et à celle qui les récapitule tous dans son mystère unique. Culte, vous le savez, à distinguer de celui de Dulie qui s'adresse aux saints canonisés, culte à distinguer surtout de celui de Latrie qui ne convient qu'à Dieu seul, que nous adorons dans l'unité de sa substance et la trinité de ses personnes. À cet égard, les mahométans errent complètement en affirmant que Marie est une personne de notre trinité. En regardant Marie toute sainte et déjà glorifiée en son corps et en son âme, l'Église contemple en elle ce qu'elle-même est appelée à être sur la terre et ce qu'elle sera dans la patrie céleste, commente encore l'abrégé du catéchisme au numéro 199. L'état présent de la Vierge Marie, siégeant dans la gloire de son Fils, anticipe le nôtre lorsque Dieu, ayant fait toute chose nouvelle, comme le dit saint Jean dans son Apocalypse, transfigurera nos pauvres corps de chair à l'image de celui de son Fils, pour reprendre les paroles de saint Paul dans la première aux Corinthiens au chapitre 15e, c'est-à-dire au jugement dernier, c'est-à-dire encore à la résurrection générale. Mais Marie n'est pas qu'icône eschatologique, celle qui au ciel nous attend, alors que nous, nous cheminons sur la terre, nous nous purifions au purgatoire, où nous contemplons Dieu, bien qu'encore dépourvu de notre corps de gloire. Elle est aussi un modèle pour notre vie d'ici-bas, dans le clair-obscur de ce pèlerinage terrestre vers la Jérusalem céleste. Saint Jean-Paul II y a particulièrement insisté dans sa grande encyclique mariale Redemptoris Mater de 1987, 70e anniversaire des apparitions de Fatima. N'oublions pas en passant qu'il avait attribué sa survie miraculeuse lors de l'attentat qui avait failli lui coûter la vie, justement à Notre-Dame de Fatima, ce fameux 13 juillet 1981. Il a dit « Une main a tenu l'arme, une autre a détourné la balle. » Et cette balle, vous le savez, il l'a fait enchâsser dans la couronne de Notre-Dame de Fatima. Tout au long de cette encyclique « Redemptoris Mater », le pape polonais revient, comme en un leitmotiv, sur le pèlerinage de foi que la Mère du Sauveur a accompli sans faille de l'Annonciation à la Résurrection en passant par la Passion. Bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Cette exclamation d'Élisabeth au chapitre 1er de Saint-Luc, rapportée au moment de la visitation, rythme ainsi la progression de toute l'encyclique. Marie, relève Jean-Paul II, a marché dans l'obéissance de la foi, manière par laquelle elle a fidèlement imité l'obéissance du Fils au Père. Marie nous rejoint ainsi dans ce qu'il y a d'essentiel. Nous qui cheminons dans la foi, non dans la claire vision, pour reprendre encore une parole de saint Paul dans sa deuxième lettre aux Corinthiens. C'est ce qui avait aussi frappé sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, docteur de l'Église, qui plutôt que contempler ces privilèges de Marie, qui en la rendant singulière semble l'éloigner de nous, préférait voir ce qui la rapprochait de notre condition et en faisait une véritable mère pour ses enfants de la terre. Si je te contemplais dans ta sublime gloire et surpassant l'éclat de tous les bienheureux, que je suis ton enfant, je ne pourrais le croire. Ô Marie, devant toi, je baisserai les yeux. Mais j'ose te regarder et m'approcher de toi. Me croire ton enfant n'est pas difficile, car je te vois mortel et souffrant pour comme moi. C'est dans son très beau poème « Pourquoi je t'aime, ô Marie ». Marie ainsi nous est proche par la foi, comme Dieu nous est proche en Jésus. D'innombrables saints l'ont reconnu. Bernard de Clairvaux, Louis-Marie Grignon de Montfort, Jean-Paul II et tant d'autres encore. Des ordres, tant masculins que féminins, se sont voués à elle ou se sont mis sous sa protection. Pensons aux cisterciens, aux servites de Marie, aux carmes, aux Annonciades, par exemple, et à tant d'autres ordres ou congrégations qui portent le nom de Marie. Alors, en conclusion, je dirais ceci. Marie nous laisse un itinéraire de sainteté qui, confronté à la volonté divine, pourrait tenir en ces trois paroles. Disponibilité, acquiescement, obéissance. Pour pouvoir dire oui, comme à l'Annonciation, il faut s'être rendu disponible à Dieu par une vie de prière et de méditation des Écritures, une vie réglée sur une ouverture fondamentale au Créateur. Ce fut le cas de la vie cachée de Marie, consacrée dès son plus jeune âge à Dieu au Temple. Et c'est ensuite ce oui qu'il faut décliner patiemment par l'obéissance dans tous les épisodes, même les plus tragiques, de l'existence. Le oui de l'Annonciation résonne dans les sept douleurs qui transpercent le cœur immaculé de la Vierge, traçant ainsi un chemin d'obéissance qui mène de la crèche à la croix, mais aussi de la petitesse de l'humble servante à la gloire de la femme, foulant la lune de ses pieds, drapée du soleil et couronnée d'étoiles de l'Apocalypse. Marie, Mère de Dieu en étant la Mère du Christ, est ainsi la mère de tous ceux qui sont appelés à devenir les frères et sœurs adoptifs de son Fils. Elle est la mère des chrétiens. Elle ne cesse de les enfanter avec l'aide du Saint-Esprit, par la grâce à la vie du ciel. Comme une mère, elle les éduque, leur apprenant la disponibilité à Dieu, l'acquiescement à sa parole, l'obéissance à sa volonté. Elle rumine la foi, gardant toutes ces choses dans son cœur, étant maîtresse d'oraison. Elle grandit dans l'espérance que se réalisent les paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Elle est mère d'espérance. Elle vit de la charité, étant tout entière relative à son Fils. Marie nous apprend ainsi la vie théologale, la vie de foi, d'espérance et de charité. Elle nous enseigne son regard qui décèle les moindres misères des hommes, comme à Cana. Ils n'ont plus de vin, dit-elle. Elle livre sa confiance en son Fils. Faites tout ce qu'il vous dira. Oui, Marie ne force pas Jésus, mais elle lui laisse pleine liberté d'accomplir ses miracles quand il veut et comme il le veut. Oui, comme l'Église, et parce qu'elle est en même temps la première et aussi la plus haute réalisation de l'Église, la Bienheureuse Vierge Marie est véritablement « Mater et Magistra » comme l'Église l'est elle-même. Mettons-nous donc à son école. Au cœur des vêpres, cette louange rendue à Dieu par son Église, nous chanterons le Magnificat. Que les paroles de Marie puissent devenir les nôtres, qu'elle s'élève vers le ciel comme l'encens qui brûlera tout à l'heure à l'autel. Devenons à l'image de Marie pour devenir à l'image du Christ et donc à l'image de Dieu, cette image aujourd'hui altérée par le péché et qui nous fut pourtant offerte aux origines pour notre joie et pour la joie de Dieu. Saint Jean-Paul II a été très marqué par l'enseignement de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort, qui enseignait dans son traité de la vraie dévotion à devenir mariforme pour être christiforme, pour devenir semblable au Christ, pour acquérir cette pleine stature de notre humanité renouvelée, de l'homme nouveau, comme dit Saint-Paul, pour devenir à parvenir à cette stature d'adulte, il nous faut devenir semblable à la Vierge Marie. C'est donc en contemplant le mystère de Marie dans les Écritures et dans la foi de l'Église, en s'efforçant de lui ressembler, que nous pourrons devenir semblables au Christ et laisser à la grâce sanctifiante qui nous a été donnée au moment du baptême la puissance de nous transformer, de faire de nous des saints. Ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et une nouvelle fois, confions-nous à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.